De retour après la pause, Madame Delphine Ragon, vous êtes coordonnatrice de l'organisme de défense des droits des parents pour la déficience intellectuelle, PARDI.
Exact.
Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de... Il y a eu un mouvement dans les médias, là, des lettres, des articles, ainsi de suite, au sujet des parents qui dénoncent la fin des services pour leurs enfants avec une déficience intellectuelle. Il y a vraiment... On est comme tombé en bas d'une falaise, là.
Exactement. Alors, dans la situation qui était décriée à partir de la lettre ouverte, en effet, de Mme Anouk Lanouette-Tourgeon, pardon, pour son fils Élie, qui a 12 ans, ça parle en effet de du sus-centre, d'une situation qui est propre au sus-centre sud, qui sont les fermetures de dossiers parce qu'ils sont en train de revoir toute leur trajectoire de service, c'est-à-dire la manière dont vont être donnés désormais les services.
Et là, quand vous, est-ce que c'est une, juste bien comprendre, c'est une situation qui est particulière au CIUSSS dont il est question, ou vous avez l'impression que ça se généralise?
En fait, ça se généralise, mais là, en tout cas, ce que nous, on sait à Montréal, c'est que parmi les CIUSSS de Montréal, c'est le CIUSSS, alors au niveau de la deuxième ligne, avec le CIUSSS de l'Est et du Nord pour la première ligne, qui sont en train de revoir toute la trajectoire de service.
D'accord. Et en quoi ça consiste? Qu'est-ce qui se passe concrètement pour les familles là, qui sont concernées?
Bon, alors là, dans la situation qui était décriée, c'était une fermeture de service pour les jeunes. Il faut savoir qu'en fait, une fermeture de dossier qui équivaut évidemment à une fermeture de service, ça se passe pas uniquement pour les jeunes, c'est pour les 0-100 ans. Simplement, c'est encore plus questionnant quand il s'agit, là, c'était un jeune de 12 ans, mais on a bien d'autres situations de parents qui vivent la même chose. À l'aube de l'adolescence ou pendant l'adolescence, avec des besoins qui étaient quand même criants en ce qui concerne Élie, qui a une déficience modérée, qui n'a pas d'autonomie dans les sphères de sa vie, qui est incapable d'exprimer ses besoins et ses émotions, qui, quand il parle, personne ne le comprend, à part ses parents. Fermer un dossier dans une situation comme ça pour un jeune, c'est complètement cliniquement questionnant et injustifié.
Ben, le mot qui me vient à l'esprit pendant que je vous écoutais, c'était aberrant. Mais enfin,
oui. Ben, c'est aberrant. D'ailleurs, dernièrement, les parents ont rencontré une autre professionnelle d'un autre type de service, la pédiatre de ce jeune garçon qui, elle-même, est sous le choc qu'on puisse, dans l'état des lieux, fermer un dossier. En plus, dans cette situation-là, il n'y a même pas eu de mise en vigie. Mise en vigie étant, on interrompt les services pendant 2 ans, mais la famille peut, ou l'usager, peut redemander, en fait, s'il y a un besoin pendant les 2 ans qui s'exprime, peut contacter un numéro de téléphone pour redemander une nouvelle intervention, un nouvel épisode de service, donc une intervention ponctuelle. Là, il n'y a même pas eu cette proposition. Puis en ce moment, on entend les intervenants nous dire qu'à partir du 1er janvier au Sud-Centre-Sud, il n'y aura plus de mise en vigie. Et en même temps, nous, on a des familles qui reçoivent encore dans les dernières semaines des lettres de mise en vigie. Alors, vous voyez...
Il y a confusion, là, oui. Oui,
exactement.
Parce que pour aller au-delà du cas bien précis que Mme Anouk Lanouette-Turgeon décrivait dans sa lettre ouverte, c'est, comme vous dites, c'est un virage de la part du CIUSSS, à savoir qu'ils veulent responsabiliser les parents.
Oui, alors ça, M. Carman, dans son intervention, a dit que, contrairement à ce que disaient les organismes, non, on n'y allait pas vers du coaching parental, mais je pense qu'il est le seul à penser ça, parce que tout le monde le sait, les parents y compris, mais même les intervenants le disent aussi. Oui, on y va vers du coaching parental, c'est-à-dire que on fait un épisode de service et puis on demande aux parents, on coach les parents pour après faire le transfert de l'ensemble des apprentissages dans toutes les autres sphères de vie, en sachant qu'un parent n'est pas un intervenant.
Mais le parent peut avoir d'autres enfants, peut avoir un travail et toutes sortes d'autres responsabilités.
Oui.
Et il n'a pas la formation.
Et voilà, il n'a pas la formation et c'est surtout pas son rôle. Il se doit d'abord d'être un parent. Ils ont déjà beaucoup de choses. Ils parlent déjà beaucoup de choses, les parents de personnes handicapées. Les rendez-vous médicaux, la course aux différents services qui existent de moins en moins vers les différents professionnels. Monsieur Carman, dans son intervention, disait que non, ça se passe pas comme ça. Textuellement dans l'article, il disait on s'en va vers le service de proximité, donc c'est l'intervenant pivot, le professionnel pivot qui vient chercher des besoins spécialisés dans les centres de réadaptation, mais tout ça est intégré et maintenu avec l'intervenant de proximité. Alors, je pense qu'il connaît bien les choses sur papier, mais qu'il ne connaît pas ce qui se passe sur le plancher des vaches, parce que tout le monde sait que l'intervenant pivot aujourd'hui, c'est les familles.
D'accord. Et depuis ce moment-là, est-ce qu'il y a eu des échos, est-ce qu'il y a eu des changements, est-ce qu'il y a eu une onde de choc là, qui a été créée et quelque chose qui a bougé?
Nous, en tout cas, on ne voit rien de visible, à part peut-être les établissements, l'établissement concerné qui peut-être s'énerve un petit peu, mais la situation dénoncée, la famille. Eux n'ont pas eu, on leur avait dit, un député leur avait dit qu'ils devraient avoir un appel de l'établissement prochainement. Là, on est quand même... la déclaration de M. Carmont, c'était le 30 novembre, nous sommes le 11 décembre... aucune nouvelle de l'établissement pour cette famille. Peut-être que l'intervention de la sous-ministre que Lionel Carmont avait demandé s'est faite au niveau de la direction DITS ADP du SUS Centre Sud, de Mme Vandoni. On n'en sait rien. Pour l'instant,
lettre morte.
Puis je peux juste vous partager des témoignages
de famille
pour vous dire que oui, ça dépasse largement cette situation-là. À la suite de tout ça, il y a eu beaucoup de réactions des familles sur les réseaux sociaux, quelques-unes. Donc exactement ce que je vis là, c'est ce que moi aussi on a fermé le dossier de notre fils. Ils ont noté par contre que c'était à cause de mon manque de collaboration. En fait, j'ai plutôt refusé qu'on abandonne mon fils, j'ai exigé des services qui lui ressemblaient, et non d'avoir une intervenante qui vienne uniquement chez moi m'observer et me dire que je suis une bonne mère. Alors que ce que j'avais besoin, c'est de ne pas manquer de la job 2 heures chaque semaine pour remplir sans une grille d'observation, mais bien que la personne qui vient chez moi parle, interagisse ou fasse directement des interventions autour de mon fils. Ensuite, je ne peux pas te décourager, mais plus ils vieillissent, plus c'est difficile. Au centre Myriam, ça c'est un autre centre de réadaptation à Montréal, nous avons demandé un éducateur pour aider notre fils avec certaines problématiques il y a plus de 5 ans. Nous n'avons toujours personne. C'était pareil durant son adolescence. Même chose ici, ils ont fermé le dossier de notre fils cette année. Je n'ai plus d'énergie pour faire une plainte. Voilà, et ça, il y en a des centaines.
Oui, voilà, exact. Alors, c'est, il semble, avec ce que vous venez de nous dire, qu'il y a vraiment un langage officiel administratif, là, vertueux, hein, plein de bonnes intentions, mais sur le terrain, ça ne marche pas du tout comme ça. Est-ce que c'est attribuable à des politiques internes mal conçues, ou est-ce qu'il y a aussi une question de moyens qui manque?
Je pense qu'il y a plein de choses. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de l'ensemble, mais il y a quelque chose qui relève probablement quand même du politique, contrairement à ce que dit M. Carmont. Donc, on sait qu'il est très bienveillant pour ces dossiers-là, mais à mon avis, il manque de pouvoir et de connaissance de la réalité de l'état des lieux des services. Il y a quand même eu, avec le projet de loi 15, mais maintenant, appelons-le la loi 15, puisque c'est passé sous le bâillon récemment. Il y a eu un amendement, qui est l'amendement 17.1, qui dit afin d'appliquer les usagers à titre de partenaire de service, un établissement doit favoriser, et ça commence, je ne citerai pas tous les sous-points, leur autonomie et leur responsabilité vis-à-vis de leur santé. D'accord. Et puis dans les discussions, le ministre avait tenté d'expliquer que cette responsabilité, c'est ce qu'il voulait dire, c'était le devoir pour les établissements de favoriser l'autonomisation de l'usager. Alors, est-ce que c'est ça dont parlait Mme Vandoni? En disant il faut que les personnes ne soient pas dépendantes en fait de nos services et deviennent autonomes. Je pense que ce qu'elle oublie, c'est qu'en déficience intellectuelle en particulier, avoir besoin de services en continu pour développer leur autonomie, leur qualité de vie, c'est pas du tout dépendre d'un système.
C'est exact. C'est pas la même chose que quelqu'un qui a des problèmes de cholestérol qui doit adopter un autre mode de vie.
Exact. Donc ça, c'est ceci. Donc il y a peut-être quelque chose qui se joue quand même au niveau des politiques, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire entendre. Après, c'est sûr qu'il y a des choses au niveau des établissements. Il faut savoir que bon, pour ce SUS-là en particulier, c'est quand même à leur décharge le plus gros établissement à Montréal et avec une grosse responsabilité populationnelle. Puis ça, je pense qu'on peut le comprendre. Puis les familles ne sont pas des familles qui chialent pour chialer, on va dire, mais qui sont très compréhensibles des limites du système, et même des fois je trouve moi trop compréhensible. Mais alors on comprend, il y a un manque de ressources, en plus un manque de financement, il y a une pénurie de personnel, de main-d'œuvre, il y a des listes d'attente pour cette direction-là. Mais au moins, ce qu'on aimerait, et ce que les familles aimeraient, c'est que ces directions, ces gestionnaires puissent avoir une honnêteté, la transparence, on va dire, de reconnaître leur incapacité aujourd'hui à donner des services qui correspondent aux besoins réels. des personnes, pour tout ce qu'on a nommé précédemment, plutôt que de nous justifier l'ensemble avec un argumentaire clinico-administratif pour vanter le bien fondé de leur pratique et la qualité des services reliés. Parce que rien ne changera s'ils n'ont pas un peu plus de courage politique pour aller dire au PDG de leurs établissements, que ce soit remonté au niveau du ministère, de dire nous, on ne peut plus travailler comme ça, l'état des lieux est dramatique et éthiquement, oui, c'est un problème.
Ben oui, oui, tout à fait. Est-ce que, comme vous avez un regard qui porte au-delà du SUS centre-ville, centre-sud, oui, vous voyez ce qui se passe ailleurs. Vous me disiez tout à l'heure que c'est la situation était se reproduisait là, dans d'autres régions administratives.
Oui, oui, c'est
loin, exact, c'est loin d'être unique. Votre organisme, le Pardi ou d'autres avec lesquels vous travaillez en collaboration, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues? Que faire après une lettre ouverte? Une réponse du ministre là qui s'écoute bien, là, mais ça n'a pas l'air de décanter sur le terrain.
Il y a plein de choses qu'on peut faire, puis on ne va pas tout vous dévoiler ici.
Non,
mais par contre, il faut savoir que le ministre ne vient pas d'apprendre la situation difficile pour le fils et la famille de Madame Anouk Lanouette-Tourjon. Elle a quand même rencontré avec deux autres mamans qui avaient, dans une autre lettre ouverte, dénoncé la situation des diminutions de services et des pertes de services. C'était avant qu'elle apprenne qu'on allait fermer le dossier de son fils. Avait rencontré l'attaché Lionel Carman. Et ce qui s'est passé, en fait, il ne s'est rien passé. Il y a eu une écoute gentille. Et à la fin, M. Carman n'était pas là, mais il en a nécessairement entendu parler parce qu'il avait aussi réagi à la suite de cette lettre ouverte. Et ce qu'a dit l'attaché à ces trois mamans-là, c'est « Écoutez, vous pouvez vous faire accompagner par la Société québécoise de la déficience intellectuelle qui est un regroupement en défense des droits. » Alors, ce n'était pas vraiment ce qu'ils allaient chercher comme réponse
non,
en se dressant au ministère. Voilà.
Oui, on aurait pensé que la réponse aurait commencé par le ministère. Oui, voilà, je peux comprendre tout à fait. Ben, Madame Ragon, c'est un dossier à suivre, hein, parce que ça ne se réglera pas demain matin et puis ça risque de... On peut prévoir plutôt plus de dérapages dans l'immédiat. Alors,
exactement.
On se tient au courant, on reste vigilant et on s'en reparle.
Ça marche. Merci beaucoup,
Monsieur
Bourguin.
Bonne journée.
Bonne journée.